Boilard en reparle, 29. Quel est votre rapport à l'argent? Lundi passé, je suis allé à l'émission d'Isabelle Maréchal. Et le thème, c'était « Avez-vous déjà été fraudé ou avez-vous été déjà lésé, pour prendre un mot un petit peu plus large, par un proche? » Et puis c'est drôle parce que lorsque la recherchiste m'a appelé, c'était mardi, ça, elle m'a appelé lundi. Elle m'appelle, puis elle me pose la question, puis je fais comme « Ah, ben tu vois, j'ai rien à raconter là-dessus. Non, ça m'est pas arrivé. Je suis pas du genre qui passe de l'argent, de toute façon. Je suis du genre qui en a jamais demandé, sauf à une banque. » Et puis, c'est que ça sort de même au début, tu sais. Et après ça, je fais « Hey, voyons donc, tu sais, je dis là, moi, c'est le contraire. J'ai eu tout un drame dans ma vie, littéralement. » Quand j'ai commencé, moi, je suis de Québec, mais je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé pour Juste pour rire, puis après un an et demi, je suis parti à mon compte avec Anthony Cavana comme gérant d'artiste. Puis après ça, je me suis associé avec un gars qui faisait ma comptabilité au début, qui est devenu un partner, et on a signé à ce moment-là, vu que j'avais des ressources qui le permettaient, vu qu'on était, j'étais plus tout seul au combat, François Morancier et Jean-Michel Anctil. Enfin, une histoire courte, il est arrivé de quoi avec mon partner? Non pas qu'il m'a fraudé, il s'est pas mis de l'argent dans les poches, mais on s'est financé à un moment donné sans que je sois au courant, avec une patente qui était supposée être temporaire, puis c'était un peu sur le dos d'un de mes clients, puis lui non plus le savait pas, tu sais, puis bon, bref. Alors, finalement, je me suis ramassé avec une dette, c'est-à-dire de l'argent que j'avais brûlé, comme si c'était le mien, mais c'était pas le mien, c'était de l'argent dû à mon client. Et puis, bon, fin de l'histoire, là, les détails de ça sont pas importants, mais c'était quand même drôle de voir que, dans un premier temps, quand quelqu'un me parle de ça, j'ai l'impression que moi, ça m'est pas arrivé. C'est que tu vois déjà qu'il y a un rapport très... il y a une petite ligne fine entre moi et l'argent qui est plus forte chez d'autres personnes parce que c'est un événement qui, à l'époque, m'a traumatisé, on se comprend bien, là, j'avais même pas 30 ans, puis je devais 35 000 piastres à droite, puis telle affaire, écoute, c'était plutôt ordinaire. Mais quand on me dit « ça t'est-tu déjà arrivé », c'est comme « non ». Puis c'est pas genre « ah, l'épouvantable souvenir que j'ai effacé ». J'attribue ça au fait que, pour moi, le cash, c'est pas une source de stress. C'est-à-dire que ça l'est quand ça rentre pas, c'est normal, là. Mais c'est pas... comment je dirais ça, donc... c'est ça le sujet aujourd'hui, d'ailleurs. C'est mon rapport à l'argent, puis le vôtre, quel est-il? C'est que mon rapport à l'argent, c'est que l'argent, c'est un outil pour arriver à des fins. C'est pas une fin en soi. Puis d'ailleurs, techniquement, c'est vrai, là. Sauf qu'il y en a qui ont inversé ça. Puis ça fait souvent des gens plus riches, mais ça fait des gens qui peuvent avoir du cash, mais à un moment donné, ce cash-là, tu te demandes c'est quoi la pertinence dans l'ensemble de l'œuvre. Ça fait que je reviens au propos de Maréchal. Donc, quand je dis ça à rechercher cette affaire, Crime, viens nous raconter ça, c'est bon, on nomme pas de nom, on veut pas avoir le détail, parfait. Puis en pleine émission, alors qu'il y a deux autres invités avec moi, en pleine émission, direct pendant l'émission, je repense à une autre affaire. Quand la guenille à Bertrand Gay, j'ai aucun problème de le nommer, un gars que je connaissais du secondaire, vaguement, je le croise à Montréal sur la rue, j'avais perdu mon coloc, qui lui était parti étudier à Londres, puis il me l'avait dit, ça se peut que je sois accepté à Londres, si c'est le cas, je m'en vais. Puis j'avais fait, OK, il me le dit d'avance. J'aurais dû faire une entente, genre, tu me donneras 3 mois de loyer, mais bon. Tu vois, j'étais pas là-dedans. C'est que le gars, il part, je perds mon coloc. On avait un loyer dispendieux là, pour l'époque. Puis là, je le croise sur la rue, lui. Ça fait que il dit « Ah, j'arrive de Los Angeles, mais je fais de la Réal, puis là, je me cherche un appart. » Je fais « Crime, c'est incroyable, viens chez nous. Ouais, parfait, super. » Puis là, j'attends des chèques, m'a payé ça 3 mois d'avance, puis tout. Alors, comme de raison, vous me voyez venir. Il m'a jamais payé, mais non, ça, c'est même pas le... C'est juste le début de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que non seulement pendant, genre... 6 ou 7 semaines, ou je sais plus trop quoi, il retardait tout le temps, il ne payait jamais. Mais ce tabarnak-là, parce que ça vaut vraiment la peine de le dire, de Bertrand Gay, ça vaut encore plus la peine de le dire, il m'avait fait des longues distances de lignes érotiques sur le téléphone. Je reçois mon compte de Belle, 900 quelques piastres. Hey, j'ouvre ça, quand il arrive le soir, j'y monte, ah là, tout confondu, en est. J'ai dit, toi, demain, tu t'en vas. Donc, ouais, mais je m'en vais où? Je m'en crisse. Il est parti le lendemain avec ses sacs verts. J'ai dit, toi dehors. Puis je l'ai recroisé 2 fois dans des restaurants avec des filles. Je suis rentré dans le restaurant et j'ai dit, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, madame. Ça, c'est une guenille. Puis là, je racontais tout live à la fille qui était assise. Ça fait qu'au moins, j'ai eu une petite vengeance. Bref. Ça Fait que, non, mais c'est drôle pareil, parce qu'en pleine émission, là, tout à coup, je repense à une deuxième affaire qui m'est arrivée. Tu sais, c'est comme si moi, ça n'a pas collé, ça. Mais bref, c'est pas ça le point. C'est que le point, c'est que le rapport à l'argent, je trouve que ça définit souvent les gens. C'est-à-dire que tantôt, j'avais un déjeuner avec l'éditrice des Éditions de l'Homme, Judith Landry. Puis elle me raconte un truc, à un moment donné, une histoire de cadeau avec un billet de loterie. Tu sais, peu importe. Puis que ça a fait vraiment beaucoup, beaucoup de tourments parce que les gens se disaient t'offres un cadeau qui est un billet de loterie, la personne gagne. Qu'est-ce qui arrive après ça? Que chacun a son idée. Il y en a qui disent ben c'est un cadeau, tu me l'as donné, c'est tout, c'est terminé. D'autres qui font ah, ben tu devrais mettre. D'autres, t'aurais dû dire avant, en tout cas, si tu gagnes, tu me donnerais. Tu sais, là. Mais tout le monde. Il n'y a personne qui fait comme oh, je sais pas, je m'en fous. L'argent, c'est hallucinant comment c'est un point qui peut être de discorde. Puis, c'est normal, parce que ça traduit des valeurs vraiment de base. C'est-à-dire que si dans vie, t'es économe, ça te tente pas d'être avec un flowbeux, ça te tente pas. Tu vas te sentir mal à l'aise avec quelqu'un qui est tout le temps en train de dire « Ah, oh, c'est pas grave, tu payes, je paye, on s'en fout. » c'est vraiment, ça touche vraiment des valeurs fondamentales. Puis, moi, personnellement, je suis pas un dépensier. Vraiment pas. Je l'ai déjà été plus, mais jamais irraisonnable, pas en tout. J'ai pas de vice du genre drogue patente, j'en prends pas en tout. J'ai un budget qui tombe dans le breuvage, puis qui diminue quasiment chaque année, là, en tout cas, bref. Breuvage étant alcool, pour ceux qui sont pas sous le code. Ça fait que moi, je suis quelqu'un pour qui une pièce qui rentre, c'est une pièce qui se flotte pas automatiquement. Puis je suis pas un consommateur. Est-ce que je suis pas un consommateur parce qu'à quelque part, ça me rend pas plus heureux d'acheter des souliers puis des chemises puis telle affaire? Il y a peut-être un bout de ça, parce que j'ai remarqué que le réflexe assez connu de la fille qui file pas puis qui s'en va magasiner, je confirme, c'est le fun. Quand tu t'habitues à ne pas le faire, tu comprends pas que c'est vraiment un soulagement. C'est trippant d'acheter des affaires sur quoi on trippe. Mais je le fais pas. Mais quand ça m'est arrivé à l'occasion, je le comprends, le trip. Le piège, c'est que ça devient souvent comme un... Ça devient vraiment une béquille, là. C'est-à-dire, je file pas, je m'en vais acheter un truc. Ça devient vraiment une béquille. Alors, le rapport à l'argent, moi, ça me fascine parce que dans une même famille, comme chez nous, par exemple, là, tu peux avoir des gens qui sont diamétralement opposés. Ma sœur Danielle, elle a tout le temps fait des bonnes payes, là. Elle travaille à New York, puis elle en fait une solide. Ça fait qu'elle, par exemple, si elle voit quelque chose, elle l'achète tout de suite. Tu vois, moi, mon réflexe, c'est toujours... À chaque fois que j'ai besoin de quoi... Soit que c'est clair dans ma tête ce que je vais acheter, soit que je vais me contenter d'un achat qui n'est pas optimal, mais c'est pas vrai que je vais dépasser 3 heures. Je parlais de ça avec RTD. L'idée que je me contente d'un achat qui est peut-être pas le meilleur possible pour mon argent, mais je veux pas avoir le stress de l'hyper-choix, qui est un vrai stress. D'ailleurs, j'en parle dans mon avant-dernier livre, là. L'important, c'est ce que les autres pensent. C'est un vrai stress là, chez beaucoup de monde, que plus tu rajoutes des choix, plus tu as le stress de dire « je vais me tromper ». Alors que si tu vas comme chez Costco, puis que tu as 2 sortes d'huile d'olive, 1 sorte de sucre, une sorte de conserve de patente, tu l'achètes ou pas, tu sais. Puis ça fait partie de l'expérience tripante de Costco, honnêtement. C'est que tu gosses pas. C'est comme quand on va au restaurant. Je vais vous donner un autre exemple. Tu vas au restaurant, pensez-y 2 minutes, là. Là, vous allez dire, c'est pas le rapport à l'argent, mais c'est le rapport au choix. Puis le choix est teinté par le budget que tu t'accordes. Tout ça, ça rapport. Quand tu vas au restaurant, tu demandes le menu. Mais pensez-y une minute. Pourquoi? Pourquoi tu regardes le menu? D'abord, tu es dans un restaurant italien, il ne te passera pas par la tête de demander des sushis. OK? Et vice-versa. T'as-tu un bon spaghetti bouclette de viande au serveur vietnamien là, dans un restaurant japonais? Non. En partant, tu es rentré dans un restaurant où il y a un style de cuisine. Alors, tu peux te laisser inspirer, je suis bien d'accord, mais c'est pas ça qu'on fait. On se laisse pas inspirer, on cherche qu'est-ce qui nous branche. Or, tu le sais, ce qui te branche. Tu vas à Cage aux Sports, là, tu sais qu'à quelque part, c'est un trip de burger, d'ailes de poulet. Moi, j'y vais à l'occasion, à Cage aux Sports, au Complexe des Jardins, je trouve ça génial, la nouvelle formule. Puis le fish and chip, il est écœurant. Mais je le regarde pareil, le menu, parce que tu me l'as donné. On a le réflexe du choix. C'est-à-dire, montre-moi ce qu'il y a, mais dans la vraie vie, je vais finir avec la même affaire. Pensez-vous vraiment qu'il y a bien du monde qui décide chaque semaine d'essayer un nouveau restaurant? Pas de farce. Puis qui se disent, moi, quand je m'habille, jamais à la même boutique. Ben non, mais on pourrait. À moins que vous soyez vraiment cru à Val-d'Or puis qu'il y a trois magasins, mais on pourrait tout le temps être en train d'essayer de quoi de nouveau. C'est pas dans la nature humaine. Ça vient avec un risque de faire. Alors, par rapport à l'argent, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la gestion de l'argent, là, la première affaire, c'est le risque que ça comporte de faire ou ne pas faire un achat. C'est ça qui mène le monde. Puis c'est drôle, personne ne parle jamais de ça. Je trouve ça drôle parce que au départ, moi, je vous jase que je vous dis que le thème, c'est le rapport à l'argent. Puis c'est vrai, mais en même temps, c'est que c'est une coche en dessous de ça. C'est la gestion du risque. J'en viens pas comment les décisions, presque toutes les décisions, c'est la gestion du risque. C'est que t'as une portion de la population pour qui j'ai un projet, puis je fonce, puis il faut que ça arrive. Moi, je fais partie de ce gang-là, puis il y a un prêt à payer. Il y a un prêt à payer, là. Tu sais, moi, j'ai vécu des affaires extraordinaires, entre autres un an à Paris. J'ai payé le prix. Je suis pas allé à Paris, je me suis autoproduit, personne ne voulait rien savoir avant, puis que je suis retourné là, puis j'avais 100 000 piastres dans mes poches. C'est le contraire, ça m'a coûté de l'argent. Ça n'a pas coûté une fortune. Mais tu sais, c'est une aventure. Vivre un rêve, s'il y a un prêt à payer. Tout, il y a un prêt à payer. C'est le secret, c'est pas de lire des livres de motivation. Le secret, c'est de dire, je veux de quoi? Je suis prêt à payer le prix. Point barre. Ça fait que le rapport complet à l'argent, c'est beaucoup ça. C'est la gestion du risque. C'est est-ce que je veux risquer d'aller vers quelque chose qui vient avec un coût et qui peut-être ne fonctionnera pas? C'est tout. C'est tout. C'est vraiment juste ça. Ça fait que c'est ça. Le rapport à l'argent, c'est le rapport au risque. On pourrait résumer ça de même. Mais vous en dites quoi? À demain.